Alors loin l'idée de vous faire le chauvinisme, un kratzeli, du Suisse fier que certaines personnalités, que certains intellectuels ou artistes sont venus en Suisse s'inspirer. Je dirais même l'inverse, pour faire plaisir à la France que j'aime. Énormément de Suisses ont dû aller à Paris, on dit bien, et même chez vous, monter à Paris, pour pouvoir exister. Et là, j'ouvre un nouveau tunnel. Une des personnalités qui m'a le plus marqué, voilà, si vous voyez ça, ça, 86. C'est parce que j'ai vu cette danse macabre quand j'avais 5 ans. Et ça m'a profondément marqué et mon imaginaire a explosé. Je ne comprenais pas l'importance de Tinguely dans l'histoire de l'art, avec le mouvement, avec cette idée de l'artiste de l'action.
Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien.
Voire du déséquilibre et de tout le nouveau réalisme. Je ne comprenais rien, comme dirait Druyer.
Et moi, comme un con, je ne comprenais rien.
J'ai envie, les amis, de vous parler de Jean Tinguely. Donc déjà, Jean Tinguely, il monte à Paris pour la première biennale d'art contemporain organisée par André Malraux. Et en 59, sur le parvis du musée d'art moderne, il balance une série de machines qui étaient d'une inventivité et d'une ingéniosité pour l'époque juste géniale. Tout analogique. Et avec encore le concept de moteur manuel. Il fallait enclencher les choses. Ou avec des légers systèmes de ressorts, mais on n'était pas encore avec du mécanique électrique comme plus tard. L'esthétique de Kandinsky l'a marqué. Et il s'est dit, je vais mettre en mouvement l'abstractionnisme lyrique et faire quelque chose de nouveau, rajouter du mouvement. Et Tinguely le disait toujours, le mouvement, c'est la base de tout. La roue, c'est le tout. Tinguely, on le connaît plus pour une autre citation qui dit que ce sont bien sûr des machineries absurdes à l'inutilité esthétique. J'adore cette phrase. Et bien sûr, toute la série des mathématiques où le mec critique la dérive de l'art abstrait, il voit l'arrivée du marché débile, de l'abstraction, et il en fait des machines à produire des dessins abstraits. Faire ça juste avant les années 60, c'est évidemment un coup de maître. C'est pas pour rien qu'il se fait repérer par Warhol, et qu'après, bien sûr, vous connaissez, j'en ai déjà parlé, hommage à New York, la première machine qui s'autodétruit. L'œuvre d'art machine qui fait évacuer la salle et qui doit demander aux pompiers new-yorkais d'intervenir. Du pur et pur, du pur génie. Les Français, vous connaissez évidemment Tinguely pour La Fontaine Stravinsky, à Paris. Fusion qu'il a fait avec Niki Saint-Phalle. Cette romance entre lui et Niki, c'est un sujet passionnant. Je ferai peut-être un apocadrille là-dessus sur l'amour et les artistes. Et vous donner un peu une typologie des artistes connus comme moins connus qui ont essayé de vivre leur passion artistique ensemble. Et combien d'amis, et combien moi aussi dans ma vie, j'ai eu des fois ce binôme où on est les deux artistes. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Est-ce que ta présence au monde est accentuée et dynamogène par ton double ou féminin. Généralement, est-ce que c'est un naufrage? Est-ce que tu peux faire une famille dans cette configuration-là? C'est un gros sujet, c'est un gros tunnel que je pourrais vous faire, mais non. Revenons à Tinguely. Ce qui me fait halluciner chez lui, c'est bien sûr, et vous les connaissez, donc c'est ses fontaines. Les fontaines de Tinguely sont magistrales. Il y a bien sûr celle de Bâle qu'on a tous vue. Il y a les fontaines de Tinguely quand elles gèlent. C'est d'une poésie et d'une subtilité rarement égalées. Surtout que le but, c'est de faire de l'art cinétique. Et là, avec l'hiver, le froid, tout est figé. Et il y a une nouvelle présence qui s'installe. Et moi, j'aimerais juste vous faire une petite anecdote. Tinguely, comme on le sait, a eu les honneurs de son vivant. Les Japonais, les Chinois, les Américains, tout le monde voulait ces fontaines. Et ce qui s'est passé, à l'époque, il n'y avait pas de mail, donc on s'écrivait entre agents, les institutions de musée écrivaient à Tinguely des belles lettres à la main, signées, voulons une fontaine, voulons une fontaine. Les Japonais ont fait le voyage pour aller à l'atelier de Tinguely, ils lui ont proposé, il y avait deux mallettes avec chacun 1 million dedans, ils lui ont dit, on veut, ça c'est pour vous, on veut vraiment garantir que vous nous fassiez une fontaine. Tinguely les a envoyés bouler en disant, je ne suis pas votre plombier. Ces genres de petites anecdotes, ils pouvaient se permettre. Et d'ailleurs, je vous fais un petit zapping de choses qui ne sont pas forcément très connues. Déjà, son délire à Moscou, avec ce genre de véhicule. Tinguely est suisse et fortement lié au monde paysan. Donc, c'est les tracteurs. Il aime les tracteurs. Et il va faire ça. Mais c'est tellement génial. Mais j'ai rarement vu un truc aussi génial. Des véhicules, il en a fait plein. Des fontaines, il en a fait plein. Des machines extraordinaires, il en a fait plein. C'est un artiste pour moi complet qui fait le lien entre la Suisse, la reconnaissance qu'il a avec la France, les États-Unis, et après c'est international forcément avec les États-Unis. Et voilà ce qui répond sur la quiétude de la Suisse. Pourquoi tu veux pas retourner en Suisse? Et cette question me le demande moi à l'inverse. Pourquoi tu quittes pas la Suisse? Sa réponse me fait sourire.
Vous êtes Suisse?
Oui.
Pourquoi ne restez-vous pas en Suisse? Vous n'aimez pas l'ordre?
Si, beaucoup.
Alors?
Mais je préfère l'éviter.
Bon, Kratsou, on va leur montrer quelque chose qu'ils connaissent pas, nos amis francophones. Un truc bien de chez moi, Neuchâtel. Ça. Ça, c'était en 2004. Les épouvantails de Martial Leiter. Leiter, c'est un artiste, dessinateur de presse, graveur, d'une époque oubliée, d'une époque perdue, où il y avait déjà un des dessinateurs de presse et qui faisait un travail de gravure. Un peu comme une espèce de réminiscence du 19e, avec des graveurs pour les vieilles gazettes humoristiques. Leiter, je le connais, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et de sensible. Ses encres et fusains sont juste exceptionnels. Je suis fan de son travail. Et au-delà de son humour un peu grinçant, comme ça, très noir, il a donc une autre œuvre qui est ses sculptures d'oiseaux. Et ces oiseaux, ces corbeaux, ces fantômes, enfin, vous interprétez ça comme vous voulez. Il les a fait, elles ont duré pendant 1 an, pendant les fêtes de la Terre, à Cernier, au-dessus de chez moi. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, Mylène Farmer, quand elle a vu ça, elle a trouvé tellement hallucinant qu'elle a repris le concept. Elle n'a pas tourné son clip directement dans la région, parce qu'il y avait des chalets puis des fermes dans les alentours. Elle est partie, je sais pas si c'est en Roumanie ou en Bulgarie, enfin bref. Elle a pris le concept, Leiter lui a refait des oiseaux, et voilà. C'est juste pour vous dire que de temps en temps, c'est drôle aussi de voir ce clin d'œil. Et la Suisse peut, avec certains projets bien bizarres, faire quelque chose qui a un certain panache. Alors moi, je vous avoue que je suis pas un immense fan de Mylène Farmer, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des fois des espèces de synchronicités qui me plaisent, parce que voilà. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes sur cette chaîne, c'est pour trouver, découvrir des trucs que vous n'avez jamais vus. Leiter, les amis, c'est extraordinaire. Il est encore vivant. C'est un gars vraiment... J'en reparlerai peut-être une fois. Voilà. En parlant de choses que personne connaît. En tout cas, mes amis français ne connaissent pas. Pas de Belges non plus. pourtant, ils sont connus à l'international. Ce sont les Moonshots. Ça fait 50 ans qu'ils tournent. Il y en a un qui est mort, malheureusement. C'était un duo. Ils se sont fait connaître à la télévision, dans des festivals de marionnettes, même chez les Américains, avec Puppet Show et tout ce que vous voulez. C'est magique. Et je vous dis, les amis de la mysticosphère, les Moonshots, si vous avez l'occasion de les voir, allez-y. C'est vraiment l'esthétique suisse-allemande. Et on sent une espèce de Bauhaus, on sent une certaine ligne comme ça, si Le Corbusier avait pris du LSD, tout en étant un peu dada, l'esprit dada. C'est, voilà, on est entre Zurich et Bâle, il y a un très fort côté aussi Morgenstreich, hein, le carnaval de Bâle. Je rappelle qu'il était le carnaval de Bâle pour Tinguy, le plus beau de tous les carnavals du monde. Et voilà. Après, je peux vous faire découvrir plein d'artistes. Et je l'aime pas beaucoup, et il m'a beaucoup déçu malheureusement, parce que j'adore son univers. C'est notre ami Augustin Rebete, qui est aussi connu à l'international, dans les plus grandes foires, il n'est pas à plaindre, le mec, il est invité partout. Personnellement, j'aimais beaucoup son travail. D'ailleurs, j'avais vu sa rétrospective au musée Tinguy, pour vous dire comme c'était assez hallucinant. Et en plus, à Neuchâtel, il s'est fait sa propre baraque, c'est d'ailleurs assez décevant. Après Chaumeau, personne ne peut vraiment prétendre de faire une maison totale. Parce que lui, il y avait un village préludien, quoi. Enfin, le village préludien, à côté, sa maison totale, à 20 balles l'entrée et 5 balles pour les enfants en bas âge, alors qu'il n'y a rien qui est prévu pour eux. Mais c'est même pas ça, j'ai pas envie d'être taquin. À la base, j'aime beaucoup vraiment son travail, hein, très sombre. Mais bon, quand t'es en interview dans le matin, puis que tu dis, je cite, « Finalement, qu'est-ce qui est vraiment sombre dans nos existences? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la politique internationale? L'égalité homme-femme? Qu'on n'a toujours pas atteinte, la manière dont on renvoie les migrants à l'aéroport de Zurich. Mon travail peut paraître sombre, mais comme peut-être un bon disque de rock. » Ok. Même un boomer n'aurait pas dit un truc pareil. Donc quand on est là, à l'international, tu vois les gages que tu dois balancer en termes de niaiserie et de soumission à la vulgate pseudo-humaniste progressiste. Parce qu'il nous a juste pas encore rajouté les queers, et puis l'écologie, puis le changement climatique. C'est quelqu'un que j'aime au niveau de son univers. Ces espèces de oiseaux morts comme ça, c'est sombre, c'est lugubre. Qu'est-ce que tu vas balancer un truc où t'en y es, dans ton œuvre, quand même assez intéressante? Ben voilà, en parlant d'œuvre intéressante, je l'ai échangé avec mon ami Antoine, ingénieur, mais qui a une très très bonne connaissance de l'histoire de l'art, et qui m'a dit, mais si tu regardes ça, Mandrill, tout ça, et on peut même rajouter à ça tous les stéréotypes que j'adore, des masques du Lutschental, les masques suisses, ou les Scherenschnitt, hein, tous ces découpages de débiles et tout, si vous regardez, si vous mettez tout ça ensemble, et je n'avais jamais tilté, il y a une thématique commune, il y a un pattern, il y a ce qu'on appelle, vous savez, j'aime bien l'employer, il y a un trope esthétique. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Parce que je suis dedans, c'est le paradoxe même de l'anthropologue. C'est-à-dire que ses propres contraintes, ses propres frictions sociales dans son propre système, il ne le voit pas, parce que c'est un anthropologue qui est un occidental. C'est la problématique de la caméra qui ne se filme pas elle-même, ou de l'œil obstacle, de l'organe obstacle, que Yankelevitch a très très bien résumé. On ne peut pas s'observer soi-même. Ben moi, je n'avais pas vu ça. Donc, je vous ai fait un petit tunnel sur le monde artistique suisse et le lien entre la France, l'Occident et l'international qui m'intéressait. Puis, en faisant cette émission, je me suis rendu compte d'un truc. Voilà.